franceinter.fr.
Et si nous remplacions notre Soleil par l'étoile Bételgeuse, toutes les planètes jusqu'à Jupiter seraient englouties, Saturne serait constamment léché par ses éruptions de matière et de nouvelles images de cette surprenante géante rouge située à 600 années-lumière de la Terre viennent d'être publiées. Il s'agit des images les plus précises d'une étoile autre que notre Soleil, obtenues grâce au télescope ALMA situé dans le désert chilien, le désert d'Atacama. Et c'est en direct avec vous que nous allons en parler. Vous êtes au Chili, Pierre Carvela. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, avec nous également en studio, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Pierre Carvela, le travail que vous publiez ici avec ces images sont issues d'observations que vous menez depuis maintenant 2015. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à cette super étoile Bételgeuse?
Alors, Bételgeuse est une étoile extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est une étoile qui est extrêmement grande, donc elle représente un peu un extrême de l'état des étoiles. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur cette étoile-là, et en particulier la manière dont elle perd de la matière. On sait que ces étoiles-là perdent régulièrement de la matière, mais on a du mal à l'expliquer physiquement comment la matière peut s'échapper de l'étoile.
Ce qui est très frappant quand on regarde les photos que vous publiez cette semaine, c'est la forme qu'a Bételgeuse. Elle n'est pas ronde du tout. On ne s'attend pas à ça d'une étoile d'un premier abord.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, le disque apparent de l'étoile est essentiellement sphérique, mais il y a des irrégularités à sa surface. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas à ce niveau, hein, disons, ce niveau de déviation de la symétrie sphérique. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait symétrique.
Et on a posté d'ailleurs la photo de Bételgeuse sur le Facebook de la Tête au Carré, hein, Axel, pour nos auditeurs qui peuvent aller la consulter et voir cette jolie patate,
hein, oui, on peut dire patate,
qui ressemble à un soleil en patate un petit peu.
Alors quelles sont les particularités d'une super géante rouge comme Bételgeuse ?
Une super géante rouge, d'abord c'est une étoile qui est assez massive. On pense que Bételgeuse fait à peu près 15 fois la masse du Soleil. On n'est pas absolument sûr, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et puis, surtout, elle est très très grande. Elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil aux longueurs d'onde visibles. Hein. C'est-à-dire, si on pouvait la voir, elle serait 1000 fois plus grande que le Soleil. Aux longueurs d'onde qu'on a utilisées avec le radiotélescope ALMA, elle est encore plus grande que ça. Elle fait à peu près 1300 fois la taille du Soleil. Donc, c'est un objet qui a une taille absolument remarquable dans le domaine des étoiles. Et voilà, c'est une propriété particulièrement importante de ces objets super géants. Donc,
Philippe Hénarejos, une question pour vous.
Oui, alors comment ça?
Non, j'ai une question pour notre invité.
Ah, j'ai une question.
Oui.
Non, pas du tout.
Bon, alors, c'est moi qui vais vous la poser. Ces nouvelles images que vous publiez, Pierre Carvela, qu'est-ce qu'elles montrent? Est-ce que vous faites des recherches particulières avec? On parlait de l'explosion tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, ce type d'image que nous avons obtenue nous permet de cartographier la température de la surface de cette étoile. Parce que l'intensité lumineuse qu'émet l'étoile dépend de la température locale sur la surface de cette étoile. Donc, en connaissant cette carte de température, on a accès à un petit peu donc aux irrégularités et on cherche à savoir comment elle perd. Elle perd sa matière et donc la température est un paramètre absolument essentiel dans ce phénomène-là.
Philippe Hénarejos, alors cette étoile, on en a déjà parlé avec vous d'ailleurs dans l'émission, elle est particulièrement intéressante, c'est vrai, hein ?
Oui, alors c'est pas la première fois qu'on la photographie. Mm-hmm. Il faut savoir que c'est une étoile, une supergéante rouge, c'est sans doute la plus proche ou une des plus proches de ces étoiles-là. Donc en taille apparente, elle est énorme. Et il faut voir que toutes les étoiles dans le ciel apparaissent comme des points. Enfin, jusqu'au début du XXe siècle, c'était le cas. Les télescopes avaient beau être gros, avaient beau avoir des forts grossissements, on ne voyait que des points, parce qu'elles sont très loin. Et celle-là, comme elle est très grosse et qu'elle est relativement proche, dès le début du XXe siècle, on a réussi à mesurer sa taille. On la voyait pas, c'était pas une photo, c'était avec le premier interféromètre, une machine un peu barbare qui permet de reconstituer la résolution maximale. Et il y a à peu près 21 ans, il y a même exactement 21 ans, le télescope Hubble avait fait le premier cliché de la surface de cette étoile, c'est-à-dire qu'on ne la voyait plus comme un point. C'est la première étoile qu'on n'a plus vue comme un point, mais comme un disque, un peu comme quand on regarde le Soleil. Donc on a commencé à pouvoir l'étudier. Et déjà, sur la photo de Hubble, on voyait qu'elle n'était pas régulière. La surface avait des zones plus claires que d'autres, etc. Et là, sur ces photos-là, alors il y en a eu d'autres entre-temps, il y a d'autres interféromètres qui ont fait d'autres photos, on voyait toujours une surface irrégulière. Et sur cette photo-là, on voit aussi une zone brillante qui est là. Alors, j'avais posé avant l'émission la question à Pierre Kervella, lui demandant si ces zones brillantes, c'est toujours la même qu'on voyait. Il semblerait que non. Donc, on peut commencer en l'observant régulièrement à suivre l'évolution de ce qui se passe à la surface de cette étoile. Et c'est très intéressant parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, Betelgeuse est une étoile qui arrive en fin de vie c'est et ça. Qui va exploser en supernova.
Elle est en train de mourir sous nos yeux,
voilà.
Au fond.
C'est-à-dire que peut-être ce soir, alors ce serait pas de chance parce qu'on peut pas la voir bien en ce moment, mais peut-être que ce soir elle va exploser en supernova, qu'elle sera aussi brillante que la pleine lune et qu'on pourra la voir en plein jour. Alors on la verra en plein jour puisque c'est l'été et que c'est une étoile du ciel d'hiver. Mais en tout cas, le fait de pouvoir suivre comme ça une candidate supernova va quand même permettre de comprendre la physique qui s'y passe. Ouais. En observant différentes longueurs d'onde, on observe à différentes profondeurs de l'atmosphère cette étoile qui est beaucoup moins dense que le Soleil. Hein. Vous voyez, elle fait 1000 fois son diamètre, mais elle fait que 15 fois sa masse. Donc, imagine que la densité, c'est quand même pas... Enfin, on pourrait enfoncer le doigt facilement, vous voyez. Donc, c'est très intéressant de suivre ça. Et je crois que les observations avec ALMA vont se poursuivre justement pour continuer à voir ce qui se passe à la surface de cette étoile.
Alors, Pierre Kervella, ça veut dire que vous attendez qu'elle explose, c'est ça ?
Ah oui, alors c'est vrai qu'on aimerait beaucoup qu'elle explose. Hein. Ça serait un spectacle d'abord extraordinaire pour tout le monde, mais aussi pour les astronomes. Ça nous permettrait de vraiment comprendre comment ces étoiles très massives explosent, parce qu'on ne sait pas non plus très bien comment elles explosent en supernovae. Donc alors, ce soir, c'est peut-être un peu optimiste de penser qu'elle va exploser ce soir. On pense que dans les prochains milliers d'années, elle va exploser. Mais bon, il faut aussi garder à l'esprit qu'elle ne présente aucun danger hein, pour la Terre. Même si elle explose en supernova, elle ne va pas ravager le système solaire. Mais ça serait un spectacle absolument extraordinaire à voir, tout à fait.
On peut la voir de la Terre ou pas, Philippe ?
On la voit très bien à l'œil nu. C'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Simplement, c'est plutôt une étoile d'hiver. Donc, faut voir à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, en début de nuit, milieu de nuit. À l'été, ben il faut attendre à la fin du mois d'août, la fin de nuit, elle se lève à l'est, voilà. Ouais.
Mais si elle explosait ce soir, qu'est-ce qu'on verrait nous depuis la Terre ?
Alors on devrait la voir. Alors du coup, elle est pas très bien observable la nuit. Hein. Elle est dans le ciel le jour, en même temps que le soleil, mais on verrait un point brillant.
C'est tout.
Le jour dans le ciel bleu. Ouais. Ben c'est quand même une étoile qui serait visible en plein jour. Il y en a qu'une à ce jour. Je vous rappelle, c'est le soleil.
C'est pas si mal.
c'est pas si mal. Celle-là est quand même à 640 années-lumière.
Absolument. Merci beaucoup Pierre Kervella pour vos précisions et pour ces clichés. Donc magnifique, hein, qu'on vous doit et qui sont sur le Facebook de la Tête au Carré pour voir Betelgeuse, donc cette étoile extraordinaire. Et puis on vous souhaite un bon séjour dans ce merveilleux désert d'Atacama où vous vous trouvez et vous êtes bien chanceux. Merci beaucoup à vous. Et puis Philippe Hénarejos à la rentrée, on se retrouve bientôt.
Eh bien oui, à la rentrée.
Et bonnes vacances Axel Villard.
Et merci Mathieu, bonnes vacances.
On se retrouve le 28 août, je crois.
On fera ça avec une de la science.
Profitez bien de cet été.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, deux études publiées simultanément confirment les dangers des pesticides néonicotinoïdes pour les abeilles. Présentées par la revue Science, ces travaux, dont l'un était financé directement par les firmes Bayer et Syngenta, ont des conclusions similaires. Les abeilles exposées aux pesticides, soit dans des champs tests, soit en pleine nature, ont vu leur capacité passer la saison d'hiver et à maintenir l'activité de leur reine. Tout cela donc en diminuant, un impact négatif et une colonie globalement affaiblie dans tous les cas, même si la publication sponsorisée arrive à des conclusions moins alarmistes. De nouvelles preuves donc qui arrivent au moment crucial où la Commission européenne doit statuer sur le sort de ce pesticide. La NASA vous propose de l'observer, le cœur d'une météorite fondre au moment de son entrée dans l'atmosphère terrestre depuis l'incident de Tcheliabinsk en 2013 où une météorite de la taille d'un bus s'est décomposée au-dessus de l'Ural. La NASA a décidé d'étudier de manière fine le phénomène, ce moment où la roche du météore chauffée par l'atmosphère se liquéfie puis s'évapore en gaz. Une vidéo des simulations faites par la NASA à l'aide de supercalculateurs a donc été dévoilée hier. Et vous pouvez d'ailleurs la voir, cette vidéo, sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis pour terminer la saison et pour pallier le manque de science, eh bien vous pouvez assister au premier festival de paléontologie en France qui aura lieu à Villiers-sur-Mer, samedi et dimanche 8 et 9 juillet, organisé par le Paléospace Festival. Le festival s'adresse aux familles, aux amateurs de paléontologie. Au programme de cette première édition, fossiles, dinosaures et compagnie, avec des expositions, des films, des jeux de plein air et des conférences. Toutes les infos sur le site du Paléospace, donc si vous êtes aux alentours de Villiers-sur-Mer.